Vous écoutez On lit pour vous.
Ribbentrop lisait des Jules Verne. Une chronique de Robert Lévesque, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Le palais de justice étant l'un des rares édifices de Nuremberg demeuré à peu près intact, ayant été en grande partie épargné lors du massif bombardement des forces alliées de janvier 1945, on a pu y tenir le procès des hauts dignitaires du Troisième Reich dans la ville même de la proclamation des lois antisémites de 1935 et des grands rassemblements nazis. Ça tombait bien, peut-on dire. Le 20 novembre 1945, lorsque le tribunal militaire international, formé de juristes des forces alliées américaines, soviétiques, britanniques et françaises, ouvre les audiences, il règne dans les lieux une odeur entremêlée de térébenthine et de poussière. On n'a pas encore nettoyé toute la crasse. Des ouvriers arrachent au burin la frise en stuc ornée de svastikas. On retape, les marteaux claquent et pour la première fois de l'histoire, on va là juger des êtres humains pour leurs crimes dits contre l'humanité. Un essai, solidement documenté, nous ramène à cette page d'histoire et ce qui en fait sa singularité, c'est que le lecteur entre dans le déroulé du célébrissime procès par une porte inopinée, fortuite, celle de la salle de presse. On nous accroche au basque des 300 journalistes qui allaient couvrir et surtout vivre ce grand moment presque un an, 406 audiences et 94 témoins, allant jusqu'à la lassitude. D'une actualité d'abord brûlante, ce procès allait peu à peu se diluer dans la banalité de la procédure au point où, dans une édition du magazine américain Collier's Weekly, on osa un jour coiffer un article du titre « L'ennui de Nuremberg ».« Nuremberg n'est plus une ville », écrit l'auteur de cet essai épatant. « C'est un huis clos où chacun dépense en ragots nocturnes le trop-plein d'ennuis accumulés dans le prétoire ». Il faut dire que, pour l'importance qu'avait ce premier procès pour crimes contre l'humanité, pour l'excitation qu'il suscitait, du moins chez les journalistes accourus, il y manquait tout de même l'élément crucial du suspense, car tout le monde savait, les accusés les premiers, que les dés étaient jetés, que la mort serait le seul, le grand verdict, pour la presque totalité des 21 accusés. L'auteur de cet essai fascinant, Alfred de Montesquieu, un descendant de la branche généalogique qui donna le dandy Robert, modèle des personnages de Des Esseintes ou du baron Charlu chez Huysmans et Proust, excusons-le du peu, est un reporter de presse de 48 ans. Il a reçu le prix Albert Londres en 2012 pour sa couverture de la guerre en Libye, qui, de ce procès entré dans l'histoire, nous fait avec assurance et tact une matière vivante, menée comme un roman, ce qui m'a impressionné car rares sont les essais, documentaires, reportages, livres qui, d'un morceau d'histoire réel, font une expérience de lecture sortie de l'ordinaire des récits de vérité. C'est du fort bien ramassé. Montesquieu colle aux reporters qui ont couvert l'entièreté de l'événement, les bosseurs, les polars, logés au château des crayons, celui des propriétaires de l'entreprise Faber-Castell, alors qu'il y avait aussi à Nuremberg nombre de célébrités littéraires, dites les touristes, logés avec les huiles, au grand hôtel, et qui ne faisaient que passer pour torcher un grand papier et repartir, tels les Kessel, Hemingway, Dos Passos, Aragon, Dublin, Elsa Triolet, sans se taper au quotidien l'ordinaire des procédures, le crayon posé sur la banalité du mal, comme le ressentira Hannah Arendt, 15 ans plus tard depuis Jérusalem, lors des assises du procès d'Adolf Eichmann. Montesquieu, de ce procès interminable d'où suinte un ennui profond, signe un véritable page-turner en suivant pas à pas, vers à vers, discussion vive à discussion brève, chambre à chambre, passade à aventure qui mèneront à des mariages. Il a lu et décortiqué tout ce que ces journalistes, descendus au charbon, ont pu écrire autant dans leurs reportages que dans leurs journaux intimes et dans les livres qu'ils publièrent pour raconter ce procès hors du commun. Avec métier, la curiosité des grands reporters, le nez des fines taupes, Montesquieu a obtenu un Renaudot de l'essai fort mérité pour cette prouesse à la fois journalistique, rigueur des informations, et littéraire, qualité du rendu. Ainsi, on suit celui qui nous introduit au palais de justice au premier jour le vendredi 9 novembre 1945. Le photographe américain Ray Daddario, qui mitraillera jour après jour les accusés, les avocats, les curieux, oubliant souvent de signer ses clichés et dont le travail sera peu reconnu de son vivant alors qu'il meurt en 2011, après avoir gagné sa vie comme photographe de mariage. Ainsi, la Française Madeleine Jacob, plume de la presse judiciaire communiste, pour Franc-Tireur et l'Humanité, qui publiera ses souvenirs de Nuremberg en 1970. Ainsi, Erika Mann, la fille de Thomas Mann, humble et grande résistante anti-nazie revenue de son exil américain pour humer de près le climat du crépuscule des hommes d'Hitler. Ainsi, le journaliste soviétique Boris Polovoy, correspondant de guerre pour la Pravda, qui publiera l'ouvrage plus complet « The Final Reckoning » chez Progress Publishers à Moscou en 1978, sur le quotidien de ces scribes qui bossèrent ferme lors de ce procès morne et historique. On y est, sous la plume de Montesquieu. On sent la subtile séduction menée par Albert Speer, principal architecte du régime, le plus fort caractère in situ, qui réussira à n'écoper que de 20 ans de prison alors que son adjoint sera pendu. Hess, l'idéologue, qui a une tête d'halluciné et qui, question tête, échappera à la pendaison pour se suicider longtemps plus tard en 1987, seul occupant de la prison de Spandau. Je retiens cette scène quotidienne où, grâce aux photos de Daddario, on voit les avocats des accusés déployer des journaux au-dessus de leur tête, immobiles, afin que les hauts gradés puissent, ce qui leur était interdit, lire les comptes rendus de la veille. Göring, amaigri, qui, les ceintures leur étant interdites, perd son pantalon, et Joachim von Ribbentrop, qui, là et pas là, lisait des romans de Jules Verne. Il sera le premier dépendu à 1h11 du matin, le 16 octobre 1946. Vers la fin des années 1990, je suis allé à Nuremberg. J'ai pénétré dans la salle 600, celle du procès. Et ce qui m'a totalement étonné, ce fut de constater la petitesse du lieu. Dans ce si minuscule tribunal se déroula un épisode majeur de la grande histoire. C'était « Ribbentrop lisait des Jules Verne », une chronique de Robert Lévesque, parue le 9 juin 2026 dans la revue « Les Libraires ».
Le scandale du Watergate minimisé par le gouvernement Trump. Un texte de Fabien Deglise, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. Il y a quelques jours, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que si le Watergate, le plus grand scandale politique américain du 20e siècle, avait éclaté aujourd'hui, l'affaire aurait fait la une des journaux pendant 12 heures à peine avant de disparaître. Dans la bibliothèque présidentielle Richard Nixon à Yorba Linda, en Californie, où il était venu faire l'éloge de son catholicisme réactionnaire, le numéro 2 du pouvoir américain a également jugé absurde l'idée qu'un tel scandale, s'il était conjugué au présent, puisse désormais faire tomber une présidence. Plus de 50 ans après cette grande tragédie politique qui a débuté en juin 1972 par une entrée par effraction au siège du Comité national démocrate à Washington, pour se solder en août 1974 par la démission spectaculaire du président Richard Nixon pour éviter l'odieux d'une destitution, le Watergate est désormais régulièrement minimisé par le gouvernement de Donald Trump. Et ce, non sans intérêt, estime l'avocat David Whitman, président émérite du Hamilton College, et Glenn Altschuler, professeur en études américaines à l'Université Cornell, qui commente conjointement l'actualité dans les pages du quotidien politique américain The Hill. Le Watergate a abouti à des dizaines de condamnations pour des crimes tels que cambriolage, corruption, détournement de fonds de campagne, destruction de preuves et obstruction à une enquête du FBI, explique-t-il en entrevue au Devoir. Le déni de cette réalité par le vice-président témoigne de la volonté du gouvernement de minimiser l'importance de ses propres manquements à l'éthique. La tentative de rabaissement du Watergate par le nouveau pouvoir en place à Washington, en chapitre historique insignifiant, n'est d'ailleurs pas que symbolique. Elle s'accompagne aussi d'attaques systématiques contre les nombreux garde-fous qui ont été mis en place par les gouvernements qui ont suivi et par le Congrès américain pour éviter qu'un tel scandale ne se reproduise. Ces garde-fous visaient à assurer la probité des titulaires de charges publiques aux États-Unis, à renforcer la gouvernance démocratique jusqu'au plus haut sommet de l'État et à garantir aux Américains un appareil gouvernemental versé dans la défense de l'intérêt public plutôt que personnel et privé. au cinquième jour de son deuxième mandat. Donald Trump a donné le ton en lançant une purge sans précédent contre 17 inspecteurs généraux qui travaillaient au sein de plusieurs agences et départements américains. Ces chiens de garde indépendants ont vu le jour dans la foulée du Watergate avec l'adoption de la loi sur l'inspecteur général, Inspector General Act de 1978. Ils étaient chargés de débusquer la fraude, les abus de pouvoir et le gaspillage, et surtout, de le faire dans un cadre non partisan. À ce jour, plus de la moitié des postes d'inspecteurs généraux nommés par le président sont toujours vacants, et ce, dans des secteurs stratégiques où les politiques de Donald Trump se déploient souvent dans la controverse, comme les affaires étrangères, la justice, la défense, le commerce, l'énergie, l'Agence de protection de l'environnement ou la Banque d'import-export des États-Unis. Pour ne citer que. Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Il a aussi réduit à sa plus simple expression le Bureau de l'intégrité publique du département de la justice, censé assurer des poursuites non partisanes contre les élus et les fonctionnaires en cas de corruption. L'organisme avait vu le jour dès l'ère post-Watergate. 40 avocats y travaillaient avant le changement de garde à Washington. Ils ne sont désormais plus que 2, à qui le pouvoir de lancer de nouvelles poursuites pour corruption a été retiré par ailleurs. Le Bureau de l'éthique gouvernementale et le Bureau du conseiller spécial, un organisme indépendant du pouvoir exécutif chargé d'enquêter sur les plaintes des lanceurs d'alerte et les violations présumées des lois sur la fonction publique, ont également été affaiblis par le nouveau gouvernement américain. Un cocktail toxique. De nombreuses raisons expliquent toutes les atteintes portées par Donald Trump aux garde-fous éthiques, résume en entrevue Kimberly Well, spécialiste en droit constitutionnel à l'Université de Baltimore. Elle cite un récent jugement de la Cour suprême qui a renforcé le pouvoir de l'exécutif américain et accordé un chèque en blanc à la présidence pour violer les lois, comme l'ont dénoncé plusieurs organismes de défense des libertés et de la démocratie. Elle souligne l'accent mis par Joe Biden pour reconstruire le pays après 4 ans de Trump, mais en oubliant de renforcer le cadre démocratique que le populiste avait commencé à éroder. Et puis, il y a la diffusion de mensonges personnalisés par des algorithmes par l'entremise des technologies et des médias sociaux pour maximiser les profits des entreprises, l'influence de l'argent en politique, l'illettrisme civique, la montée d'une haine exacerbée aux États-Unis, l'instabilité économique accrue, les inégalités de richesse massive et, bien sûr, la désensibilisation des Américains à la corruption, après 10 ans de politique soumise à la médecine Trump, ajoute-t-elle. La semaine dernière, le président s'est vanté de submerger ses enfants d'informations privilégiées, et ce, par le simple fait qu'il occupe le bureau ovale, tout en dénigrant au passage les accusations persistantes de conflits d'intérêts qui ont accompagné le dévoilement de sa dernière déclaration de patrimoine. Le populiste a enregistré des revenus de 2,2 milliards de dollars en 2025, soit plus que ses revenus cumulés des 4 années de son premier mandat. Le chiffre représente aussi 3,5 fois les revenus de 622 millions de dollars déclarés en 2024 avant son retour à la Maison-Blanche. Une analyse détaillée des documents a révélé également que ses actifs numériques sont à l'origine de 1,4 milliard de ses revenus, passant entre autres par les crypto-monnaies, un chemin favorisé par plusieurs leaders autocratiques dans le monde pour déjouer les règles sur la transparence et masquer de possibles actes de corruption. Des règles éthiques dont Donald Trump ne se soucie guère, lui qui, dans une entrevue accordée au New York Times au début de l'année, affirmait se donner le droit de mettre sa fonction présidentielle au service de ses entreprises et des affaires de sa famille, après avoir compris que personne ne s'en souciait. Le gouvernement Trump a habitué les Américains à un flot incessant de controverses éthiques qui rendent difficile de se concentrer sur l'une d'entre elles, commente Glenn Altschuler et David Whitman, joints au début de la semaine dans l'État de New York. Les deux hommes constatent qu'aujourd'hui, la polarisation politique et le cloisonnement de l'information favorisent un esprit de clan qui incite à percevoir les allégations de corruption à travers un prisme partisan. Ce changement dans l'environnement politique est propice à l'oubli du Watergate et à l'effacement de son héritage. D'autant que, en racontant depuis des années le triomphe d'un appareil gouvernemental moralement fort quant aux abus de pouvoir au plus haut niveau, cet héritage peut être perçu comme une menace dans le contexte politique américain d'aujourd'hui. C'était le scandale du Watergate minimisé par le gouvernement Trump, un texte de Fabien Deglise, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir.
Quand l'âge estompe les nuances de la voix. Un texte de Laurence Niozi, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. Avec l'âge, notre oreille émotionnelle se brouille. Certaines émotions dans la voix de l'autre deviennent plus difficiles à reconnaître, même chez des adultes en santé. Un déclin subtil, mais réel, selon une équipe de l'Université Laval. L'étude a été entreprise par Laura Monetta, orthophoniste et professeure à l'École des sciences de la réadaptation, à partir de son expérience clinique auprès de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Celles-ci rapportent souvent des difficultés à saisir les émotions dans la voix des autres. On s'est demandé si, même sans pathologie, il existait un déclin avec l'âge et si cette baisse de perception concernait toutes les émotions de la même manière, explique-t-elle. Les résultats de l'étude, publiés en août dans le Journal of Speech, Language and Hearing Research, montre que la sensibilité aux émotions peut varier selon leur nature. Les adultes de 63 ans et plus reconnaissent moins bien la tristesse et l'émerveillement, des émotions caractérisées par des modulations fines et une faible activation physiologique. À l'inverse, la joie ou la colère, plus intense et marquée dans la voix, sont bien perçues. En moyenne, les personnes âgées ont correctement reconnu les émotions dans 79 % des cas, contre 90 % pour les jeunes adultes. Le déclin ne s'explique ni par une baisse de l'audition, ni par un déficit cognitif général. Selon Laura Monetta, la difficulté croissante à saisir les nuances provient plutôt d'un appauvrissement du répertoire prosodique, soit l'ensemble des patrons d'intonation construits au cours de la vie. Ces découvertes permettent de mieux distinguer le vieillissement normal des troubles pathologiques et pourraient guider le développement d'outils pour soutenir les personnes atteintes de troubles prosodiques, notamment dans le contexte de maladies comme le Parkinson. Au-delà de l'enjeu clinique, la question est sociale. Si certaines émotions deviennent plus difficiles à percevoir, cela peut affecter les interactions quotidiennes. Comme le rappelle la chercheuse, la prosodie est beaucoup plus importante qu'on le croit dans la vie de tous les jours. Quand on comprend moins bien ce qui se passe dans la voix de l'autre, ça peut favoriser son isolement, surtout s'il s'agit d'une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative. C'était quand l'âge estompe les nuances de la voix. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science.
Apprivoiser le microbiote du sol. Un texte de Clara Villeneuve, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. De Laval à Normandin, des scientifiques des établissements de l'Université du Québec étudient les sols agricoles ou urbains pour les réhabiliter et les protéger. Microbiote du sol, l'allié invisible. Transformer un ancien dépotoir de neige en écoquartier futuriste est un pari audacieux, surtout quand on compte sur les microbes du sol pour y parvenir. C'est pourtant le défi que souhaite relever Philippe Constant, professeur au Centre Armand Frappier Santé et Biotechnologie de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, en tant que titulaire de la chaire de recherche en ingénierie du microbiome pour des applications environnementales et agroalimentaires, un partenariat entre l'INRS et la Ville de Laval qui vise le développement du Carré Laval, un terrain de 42 hectares. Pendant deux ans, 2025 à 2027, son équipe mène avec la population lavalloise une campagne d'échantillonnage des sols dans plusieurs secteurs, dont le Carré Laval, pour y recenser les micro-organismes. Les premiers résultats indiquent que la diversité microbienne est 100 fois plus faible dans le sol du Carré Laval que dans les sols de parcs ou de forêts avoisinants. Mais ce n'est pas une fatalité. L'ingénierie du microbiome peut sembler ambitieuse, comme si on prétendait pouvoir maîtriser le monde microbien. L'idée est plutôt d'adopter des pratiques qui favorisent certains micro-organismes essentiels à la restauration du site pour atteindre nos objectifs plus rapidement, précise Philippe Constant. Ces pratiques peuvent inclure, par exemple, des amendements de matière organique ou la culture de légumineuses, à laquelle s'intéresse particulièrement l'équipe. Ces plantes, en symbiose avec des bactéries capables de capter et de fixer l'azote de l'air, sont reconnues pour leur capacité à enrichir les sols dégradés en azote. Or, plusieurs études démontrent que le gain en azote à lui seul ne serait pas suffisant pour expliquer l'ensemble des bénéfices observés sur le terrain grâce à ces bactéries, ajoute le chercheur. Il estime qu'une partie des bénéfices pourrait être liée au flux d'hydrogène qui accompagne la fixation d'azote et qui exercerait un effet de fertilisation en activant des communautés bactériennes favorables. À terme, ces recherches pourraient permettre d'ajouter certaines bactéries sélectionnées pour maximiser les bénéfices des légumineuses dans la réhabilitation des sols urbains. Mettre en culture une friche herbacée. L'Abitibi-Témiscamingue est connue pour son abondance de lacs et l'immensité de ses forêts. Mais c'est le potentiel agricole de la région qui a attiré l'attention de Vincent Poirier, professeur en sciences du sol à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT. On est dans un secteur où les sols, argileux, sont intrinsèquement riches et fertiles. Des sols à fort potentiel, remarque-t-il. Un fort potentiel, certes, mais peu exploité. La zone agricole représente 11% du territoire. Et seule une infime fraction de cette zone, 3,4%, est aujourd'hui cultivée, le reste étant en friche. Le réchauffement climatique pourrait encourager la conversion des friches en champs. Il y aurait alors un risque de perturber les services écosystémiques de ces parcelles, comme la séquestration du carbone, la biodiversité et la pollinisation. Comment remettre ces friches en production sans nuire à ces services? C'est la question au cœur du projet Extase, une expérience de mixité des espèces en système agricole et agroforestier pour accroître la production de services écosystémiques que Vincent Poirier pilote depuis 2022. Son équipe a investi une ancienne friche du Témiscamingue et y teste différentes recettes pour produire de grandes cultures, méthodes agroforestières ou agricoles, avec ou sans arbres, avec ou sans bandes fleuries, pour attirer les pollinisateurs, avec ou sans culture de couverture, culture semée après ou pendant la culture principale pour entretenir les microbes dans le sol et limiter l'érosion, en monoculture ou en rotation, avec ou sans légumineuses. Ce laboratoire à ciel ouvert est un rêve chéri depuis longtemps par Vincent Poirier. Ce type de dispositif expérimentaux à long terme permet de montrer des exemples de méthodes aux producteurs locaux. En recherche, on n'a pas l'impression de réussite que les agriculteurs et agricultrices peuvent avoir. On peut se permettre de prendre des risques, dit-il, précisant que le personnel agricole peut visiter le site d'études lors des journées champs, ce qui assure une certaine transmission des connaissances. On estime que le sol abrite 25 % de la biodiversité connue et 75 % de la biomasse terrestre. Connaître les sols nordiques. L'agriculture dite nordique du Saguenay-Lac-Saint-Jean se distingue autant par les plantes cultivées, bleuets sauvages, camerises, canola, que par le climat boréal que celles-ci doivent braver. Le système agroalimentaire de la région est complètement différent de ce qu'on voit ailleurs au Québec, résume Maxime Paré, professeur en agriculture nordique à l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC, qui a développé une expertise dans le bleuet sauvage, emblème incontesté de la région. Une récente étude menée par son équipe a dévoilé que les sols de bleuetière émettent peu de gaz à effet de serre, GES, et seraient même un puits de méthane. Si vous cherchez une raison supplémentaire d'acheter ces petits fruits? On s'en doutait, mais ça n'avait jamais été mesuré, explique le spécialiste en sciences du sol, qui mène ses travaux à la bleuetière d'enseignement et de recherche, une infrastructure de plusieurs dizaines d'hectares. Des dispositifs installés à même le champ ont permis de mesurer les flux de GES, dont le méthane et le protoxyde d'azote, N2O, ce dernier étant issu de la transformation des engrais azotés par des microbes du sol. L'équipe a mesuré des émissions négligeables de N2O, alors que différents engrais avaient été utilisés. Du côté du méthane, le champ en capte plus qu'il n'en émet. Cette absorption de méthane n'est pas immense, on parle d'à peu près 2 kg à l'hectare par année. Mais les flux sont négatifs, souligne Maxime Paré. Il précise que des bactéries consommatrices de méthane avaient déjà été détectées dans le sol à proximité des racines de plants de bleuet nains sauvages, ce qui pourrait expliquer cette observation. Plusieurs autres projets sont en cours dans son laboratoire, notamment pour expliquer la distribution des stocks de carbone dans l'agroécosystème du bleuet. C'était « Apprivoiser le microbiote du sol », un texte de Clara Villeneuve paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.